Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Comment éduquer sereinement ses enfants quand les injonctions à la perfection pressent les parents de toutes parts? Comment aimer chacun selon ses besoins dans le tourbillon de la vie quotidienne? Comment être disponible sans s'oublier soi-même? Deux mères de famille apportent aujourd'hui leur éclairage. Qu'on ait 1, 2 ou 14 enfants, l'éducation est un défi quotidien. Deux mamans en témoignent aujourd'hui sur Radio Présence. En studio, j'ai la joie de recevoir Alexandra Codine. Bonjour Alexandra.
Bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes mère de deux enfants de 10 et 8 ans. Vous êtes l'auteur du podcast « C'est le moment de briller » dans lequel vous partagez les outils de Fly Lady. Cette méthode propose des petits pas pour organiser les tâches domestiques et retrouver du temps pour soi, pour sa famille et pour ses amis. Et évidemment, les auditeurs de Radio Présence vous connaissent bien puisque vous avez animé pendant 3 ans et demi une chronique du même nom, chronique qu'on peut encore retrouver sur les plateformes de podcast. Nous sommes aussi en ligne depuis la région parisienne avec Marielle Blanchier. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes l'auteur de Déborder, non merci, éduqué en toute sérénité chez Salvatore. Vous avez 14 enfants entre 32 et 8 ans et je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. J'aimerais que nous commencions notre échange par cette idée que les parents doivent tout faire de manière irréprochable. On appelle ça le perfectionnisme parental. Aujourd'hui, des parents sont épuisés, ils sont même en burn-out. Il n'y a pas que au travail qu'on peut être au burn-out. À force de vouloir tout gérer à la perfection, pour vous, Marielle Blanchier, d'où vient ce désir de perfection?
Je pense qu'on a raison de vouloir être parfait. En même temps, nous sommes des êtres complètement imparfaits, donc c'est quelque chose de... C'est un chemin, en fait. Hein. C'est pas, on n'atteint pas tout de suite la perfection, donc il faut avancer pas à pas et justement accepter aussi notre imperfection pour pouvoir avancer sur ce chemin.
Mmh. Oui, mais c'est quand même une injonction qui vous paraît pas démesurée par rapport à justement nos propres limites.
Si, c'est complètement démesuré parce qu'on sera jamais parfait. Et c'est pas grave. Je crois pas que la perfection soit quelque chose qu'il faille vouloir atteindre à tout prix maintenant, tout de suite. En fait, c'est un chemin vers lequel on tend. Et tant qu'on est sur Terre, on va être là avec nos limites humaines. Et donc, elles font partie de notre apprentissage et l'erreur fait partie de l'apprentissage. Donc, à partir de là, c'est quelque chose à construire, en fait, cette perfection. Mmh. Et elle n'est pas atteignable tout de suite.
Oui, c'est ça. Et c'est important que vous disiez que l'erreur fait partie de l'apprentissage parce que c'est non seulement ce qu'on apprend quand on est parent, mais c'est aussi ce qu'on essaye de transmettre à nos enfants.
Absolument. Mmh. Absolument. C'est par l'erreur que... c'est par l'erreur, bon, bien sûr, il ne faut jamais qu'elle soit trop grosse et trop irréversible, mais c'est bien par l'erreur, par nos petites erreurs et les réajustements au jour le jour qu'on arrive à construire, en fait, une famille et qu'on arrive à construire une éducation.
Mmh. Alexandra, Codine, est-ce que vous vous êtes sentie à certains moments de votre vie de mère de famille poussée vers cette perfection parentale? Et si oui, comment avez-vous pu vous en sortir?
Alors oui, je pense que les réseaux sociaux n'ont pas aidé avec la comparaison qu'on peut avoir avec d'autres clichés de parents dont la maison est très bien rangée, où ils ont le temps de faire plein d'activités et qu'ils donnent l'impression d'être dans l'amour tout le temps. Donc ça n'a pas dû aider. Et, oui, moi je suis vraiment arrivée à l'épuisement maternel le plus extrême avec des pensées plus que négatives et un matin où je n'ai plus pu aller au boulot. Où mon mari m'a dit « Non mais tu restes là et on va appeler le médecin ». Et j'ai été arrêtée 9 mois. Donc la vraie dépression, est-ce qu'elle est arrivée suite à de la comparaison? Je ne sais pas, c'était une accumulation de qui j'étais, de où je venais. Et voilà, en tout cas, c'est l'épuisement
a été extrême. Qu'est-ce qui vous a aidé? Alors, mis à part effectivement cet arrêt que vous avez pris pendant 9 mois, qu'est-ce qui vous a aidé à remonter la pente? Est-ce que vous avez eu une prise de conscience finalement de cette perfection qui n'était pas ajustée?
Qu'est-ce qui a aidé? Le temps, la prière, l'entourage, les médicaments, la thérapie. pour ma part, la prière a emmené la découverte de la méthode de Fly Lady. Et donc, petit à petit, j'ai remis en place des routines qui m'ont fait remettre un petit peu de positif, un peu plus chaque jour, et avec des rechutes de temps en temps, mais en tout cas, recommencer à avoir un peu de lumière face à moi.
Et vous dites bien petit à petit, et ah ça, oui. c'est un mot qui est important pour vous.
Ah, extrêmement important. Petit à petit et des petits pas. L'un après l'autre. Dans la méthode de Fly Lady, il y a 31 petits pas que j'ai acquis tout doucement. Ça a pris plus d'un an pour ma part. Mais aujourd'hui, je vais très très bien.
Et on le voit à votre sourire. Et ce que vous dites, Alexandra Codine, ça fait écho à ce que disait Marielle Blanchet sur cette imperfection. On avance petit à petit, c'est tout un chemin. On accepte sa pauvreté, ses limites, et on accepte aussi de se faire aider.
Ah oui, obligé. Aider par le Seigneur et puis aider par le conjoint, la famille, les amis, surtout les amis. Moi, ça a été beaucoup d'amis, copines avec qui j'ai pu parler, avec qui j'ai pu ouvrir mon cœur et me rendre compte que j'étais pas seule en fait, qu'on était nombreuses à vivre la même chose et qu'on n'était pas toutes à se l'avouer et ouvrir notre cœur à cette découverte, c'était salvateur.
Marielle Blanchet, pour rebondir sur ce que dit Alexandra Codine, non seulement sur la place de la prière, hein, puisqu'on sent bien que ça a été pour vous, Alexandra, il y a eu un avant et un après la place donnée à Dieu dans votre vie, et puis aussi peut-être sur cette notion d'aide. On va commencer peut-être sur la dimension spirituelle, Marielle Blanchet.
Alors, pour ma part, j'ai toujours été dans la foi. J'ai peut-être eu la chance d'avoir toujours cette idée que le Seigneur m'accompagnait. Mais j'ai vécu une énorme conversion après mon sixième enfant. Le Seigneur est devenu vraiment présent. Et d'ailleurs, j'ai même cru que la maternité, c'était plus mon chemin. Et donc, j'ai eu une énorme crise dans la maternité. Et finalement, bon, en relisant tout ça, je pensais que le Seigneur m'attendait ailleurs, tellement c'était prenant. Et en fait, en relisant tout ça, et voilà, le chemin a fait que c'était vraiment dans la maternité que le Seigneur m'attendait. Et la prière pour moi et la messe quotidienne ont été un vrai soutien pour me dire que la perfection c'était Dieu seul et que nous on était juste sur un chemin avec nos pauvretés et ce qu'on était et que on avait avancé mais qu'on était soutenu, on n'était pas tout seul sur ce chemin et on est non seulement pas tout seul parce que le Seigneur est déjà là, son amour est sur nous, son amour est sur nos enfants. À la fois on a à faire tout ce qu'on a à faire en tant que père et mère, mais il y a quelque chose de l'inquiétude qui est injuste en fait, qui est injustifié et qu'on doit relayer à Dieu en fait. Le Seigneur nous accompagne, on n'est pas seul. Et puis autre chose qui m'a beaucoup aidée, surtout par rapport aux réseaux sociaux, c'est que j'étais entourée avec beaucoup de personnes en fait, d'amis et on discute de nos difficultés et la vraie vie elle n'est pas comme sur les réseaux sociaux, on le sait, en discutant avec tout le monde a ses soucis, tout le monde a ses combats, tout le monde a ses failles, tout le monde a ses réussites, parce qu'il faut aussi parler de réussites, parce que y a quelque chose de beau dans les réussites et c'est encourageant, et à discuter, à avoir des groupes de prières et des groupes de paroles avec d'autres, on se rend compte qu'en fait le chemin est ardu et que le chemin c'est pas une perfection à atteindre comme ça en un claquement de doigts qui serait facile à atteindre, et les réseaux sociaux nous montrent une vision très 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 idéalisée de ce qu'est la maternité, parce que les gens ont peur de ce qui serait montré de pas complètement parfait.
Oui, c'est vrai. Vous évoquez aussi cette aide dont vous bénéficiez du Seigneur. Est-ce que pour vous, l'aide de vos enfants, de votre mari, de vos proches, c'est aussi quelque chose sur laquelle vous pouvez compter et vous avez besoin de compter, sur laquelle vous avez... Oui, c'est ça.
Oui, en fait, on n'est pas seul. Je pense aussi que peut-être, éventuellement, beaucoup de mamans pensent qu'elles ont tout à prendre en charge. Et en fait, je pense qu'une famille, c'est un ensemble. Chacun a ses pauvretés et chacun a ses forces. Et il faut arriver à trouver les forces de chacun pour demander d'aider. Pour l'un, ce sera très facile de vider un lave-vaisselle. Pour l'autre, ce sera la fin du monde. Pour l'un, c'est très facile de prendre une pelle et d'aller déblayer le trottoir. Pour l'autre, d'aider à un exercice de maths. Et chercher qui peut faire quoi avec le plus de facilité possible et pour que l'ensemble avance. Je sais que mon mari fait le linge. Je sais pas s'il aime bien ça, mais en tout cas... ici tous les jours il fait les machines, il met au sèche-linge. Je suis plutôt du rangement et de la cuisine. Voilà, chacun, je sais, j'ai une fille qui aime beaucoup la pâtisserie. Chacun a trouvé le lieu dans lequel il peut s'épanouir et en même temps, il faut leur laisser ce lieu-là aussi parce que c'est super important et valorisant pour des enfants de pouvoir donner de leur temps là où ils sont ajustés.
Mmh, oui, Alexandra Codine, dans la méthode Flywheel que vous avez mise en place et qui vous a aidé à sortir de ce burn-out parental, maternel, comme vous disiez, cette implication de chacun dans la famille, c'est important. Comment vous voulez réagir par rapport à ce que disait Marielle Bélanger?
Alors vraiment, si on reste sur la méthode de Fly Lady, non, c'est pas ce qui est vraiment prescrit en première intention. La première intention, c'est de le faire pour soi et par écho, par neurone miroir, les autres autour de nous vont pouvoir faire la même chose. Hier encore, j'avais une personne que j'accompagne qui me disait « Je suis trop contente, je suis remontée dans la chambre et c'est la première fois que mon mari refait le lit. » Alors qu'elle, du coup, avec les petits pas que je lui proposais, ça fait quand même déjà plusieurs semaines qu'elle a mis en place de refaire son lit tous les matins. Et elle disait, c'est génial, maintenant mon mari refait le lit et fait briller l'évier tous les soirs. et en fait, c'est superbe que ça soit comme ça, qu'elle ait été un exemple. Mmh. Mais je ne suis pas tant étonnée parce qu'on n'apprend pas spécialement à s'occuper de son foyer. Ce sont des tâches invisibilisées. Moi, ça a été tout à fait le cas dans mon éducation familiale pour des raisons très intéressantes que je déploie avec mon thérapeute. Mais on ne sait pas forcément s'occuper de son foyer si on ne nous l'a pas appris ou si on ne l'a pas regardé. Donc, quand on invisibilise ce travail par des personnes qui sont payées pour ça, eh bien, on ne sait pas qu'il faut faire ou ça ne paraît pas une évidence. Et ce n'est pas une routine, ce n'est pas quelque chose qui est ritualisé. Et du coup, voilà, c'est en étant moi-même un exemple, ben je vois que autour de moi, oui, on utilise les 5 minutes de sauvetage de pièces. On sait qu'on travaille sur du désencombrement avec un minuteur, mais c'est moi en première.
Oui, c'est ça. Et on voit bien que cette notion de l'exemple, c'est la même chose, ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Ça fait un pendant avec l'éducation. Finalement, si vous dites à votre enfant range ta chambre et que vous, votre chambre est un véritable bazar, en fait, c'est pas crédible. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez et que vous éprouvez au quotidien, Marielle Blanchet, avec vos 14 enfants?
Oui, c'est sûr que si soi-même on n'est pas très assidu au rangement et c'est difficile de demander à un enfant de l'être. En même temps, je suis une très grosse rangeuse, donc j'ai ça un peu inné en moi. Mais je remarque, certains enfants rangent très facilement leur chambre et pour eux, c'est pas un effort. Et d'autres, ça sera le bazar toujours. Mmh. Et je pense qu'il y a des tempéraments aussi par rapport à ça.
Oui, c'est ça. On va avancer un petit peu dans cette émission. Vous avez évoqué, Marielle Blanchet, cette notion d'inquiétude. En tant que parent, on peut être débordé par ses émotions et peut-être que l'inquiétude fait partie de ses émotions. Mais on a aussi le quotidien matériel qui peut être source de stress. Vous, c'est plutôt justement ces émotions qui vous stressent, qui peut être source de débordement. Comment vous le surmontez, Marielle Blanchet?
Oui, matériellement, je suis assez organisée et je range assez facilement et c'est quelque chose qui m'oppresse pas tant que ça. Par contre, effectivement, un enfant qui va moins bien, une injonction dans la rue, toutes ces choses-là, effectivement, ça peut prendre la place. Et je pense que c'est par la prière, par la discussion avec mon mari. Je pense que, pour ma part, la demi-heure ou l'heure qu'on passe ensemble le soir avec Pierre, pour moi, c'est salvateur de pouvoir redire tout ce qui s'est passé pendant la journée, de pouvoir en discuter, de pouvoir disséquer les choses. Et puis ensuite, dans la prière, de pouvoir remettre tout ça à Dieu et pour recommencer une nouvelle journée sereinement. Parce que c'est vrai que, surtout quand une mère au foyer, on reste beaucoup, beaucoup de temps seule à la maison et on a beaucoup de temps pour réfléchir. Et donc, il vaut mieux avoir des idées positives et des idées qui bénissent plutôt que des idées qui tournent en rond et qui vont dans le mauvais sens. Et donc, c'est ça, c'est très important, je pense, pour une mère au foyer d'avoir la louange aux lèvres et d'avoir un optimisme. Voilà. Et ça, c'est vraiment à cultiver quand on reste beaucoup à la maison.
Et ça, effectivement, c'est la prière qui donne ce fruit de paix et de joie.
Oui, oui. Absolument. Oui. Et puis, comme disait Alexandra ou vous-même, c'est vrai que c'est pas tout ce qui est invisible dans la maison, c'est pas du tout valorisé par la société. Oui. Et donc, il faut arriver à être chez soi. Enfin, moi, se dire que son chez soi, c'est un petit monastère domestique. Et donc, louer le Seigneur dans les tâches de tous les jours par les petites choses quotidiennes, comme disait Sainte Thérèse. Et ça, il faut, c'est un vrai apprentissage. Parce que, effectivement, on n'est pas dans la performance, on ne fait pas quelque chose qui, aux yeux de la société, est beau, mais aux yeux du Seigneur, c'est les petites choses qu'on fait tous les jours qui ont de la valeur.
Alexandra Codine, je vous vois hocher de la tête.
Je suis tout à fait d'accord. Moi, je bénis ma maison tous les lundis matin. Enfin, je l'ai fait pendant longtemps le lundi matin, maintenant que je fais du sport, je suis passée au lundi après-midi, mais je bénis en tout cas ma maison tous les lundis matin en faisant ce que Fly Lady appelle le blessing, en 7 fois 10 minutes, et c'est vraiment je pose mon cerveau et je remets ce temps-là pour ma maison, mais aussi pour moi, parce que je sais que j'ai rendez-vous avec ma maison, que quand les enfants vont rentrer le lundi à 5 heures, la maison sera propre et ça ne m'aura pas pris, ça m'aura pas pris la tête du tout, ça m'aura fait plaisir. Et je suis tout à fait d'accord que c'est des rendez-vous... de bénédiction.
Oui, vous, Alexandra Codine, vous êtes moins débordée par vos émotions que par l'organisation, non ?
Je pense que c'est les deux. À un moment, j'ai été si mal, c'est que j'ai été débordée par l'émotion, par l'encombrement, par la non-connaissance de comment gérer toutes ces tâches ménagères. Donc, à un moment, ça a été l'encombrement le plus total à tous les niveaux, matériel, psychologique.
Marielle Blanchet, vous avez évoqué que vous preniez un temps chaque jour avec votre mari, une demi-heure. Et là, j'aimerais bien que vous nous donniez un petit peu, si ce n'est pas trop indiscret, votre routine pour mettre en place cette discussion dans un temps qui est contraint et qui est quand même nécessairement quotidien.
Oui, alors il y a le bavardage, en fait, il y a ce moment où on est ensemble, on est juste bien et on bavarde de choses et d'autres, de lectures, de choses qu'on a vues, d'une rencontre, d'un problème avec un collègue, voilà. Il y a ce moment de bavardage et puis après il y a ce moment où on peut dire des choses qui nous sont plus intimes, en fait, quelque chose qui sont difficiles à dire. Il y a des moments où on peut pas les dire déjà. Je pense qu'il y a tous ces moments où on a besoin soi-même de ce cheminement intérieur pour arriver à dire certaines choses qui nous sont très intérieures. Et puis donc il y a ces moments aussi où c'est prêt, où on se lance et on peut dire ces choses bien intimes qui nous ont touchés, qui nous ont fait mal, où l'autre s'est blessé, ces pardons à donner aussi. Et donc il y a ce moment de discussion aussi où on n'est plus dans le bavardage, où on est plus dans une relation très intime. De notre être intérieur, du partage de notre être intérieur. Et puis après, il y a cette période où on prie, où on prie le Seigneur. Souvent, nous, on fait de la prière de l'Église catholique des Vêpres, où on complie, sachant que souvent, on a lu quand même pendant la journée la messe où on a pu assister à la messe. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on bâtit les soirées d'échange.
D'accord. Alexandra, prendre soin de son couple, c'est outre la prière, c'est vraiment un pilier pour la mère de famille.
Oh oui.
Oh oui.
Moi, j'ai de la chance. Je me disais en écoutant Marielle que moi, j'ai un mari qui est extrêmement occupé, extrêmement engagé à plein de niveaux. Mais on a vraiment déjà notre rendez-vous du soir quand il n'a pas de réunion très, très tardive. Mais mon mari a, comme langage de l'amour, le toucher physique. Et donc, c'est extrêmement important pour mon mari de se faire papouiller. Donc, c'est vraiment un moment qu'on a ritualisé presque en s'installant sur le canapé. Et puis, je lui fais son petit massage, là.
Et en même temps, vous discutez.
Voilà, et c'est vraiment... C'est notre rendez-vous. Notre rendez-vous quotidien, c'est le moment... de reconnexion et physique et psychologique, où on peut discuter, où on peut ne pas discuter aussi, mais en tout cas, on sait qu'on a ce rendez-vous. Et puis après, on essaye vraiment de se donner des rendez-vous, un petit resto de temps en temps, à la semaine presque, et ou un rendez-vous plus week-end, où on se reconnecte.
Un temps dédié vraiment rien que pour vous deux.
On essaye de le faire une fois par trimestre.
Oui, ça c'est important. Et vous, Marielle Blanchier, puisqu'on est un peu dans cette trousse à outils, outre ce rendez-vous des 3-8 que vous arrivez à garder et que vous avez mis en place avec votre mari, vous avez d'autres moments avec votre famille nombreuse où vous arrivez à vous extraire un petit peu?
Ça nous arrive d'aller faire une promenade tous les deux, surtout quand il est en télétravail. On mange rapidement et puis après on va se promener ensemble. C'est moins ritualisé, mais c'est au gré des possibilités de la journée. On trouve un petit moment pour le café du matin aussi, quand voilà, le petit déjeuner est fini et que c'est le week-end et que tous sont partis. On va traîner un peu tous les deux à discuter, voilà, ce genre de choses. Dîner au restaurant, on le fait moins souvent, mais ça arrive aussi.
Ça arrive aussi. Je vous propose, Alexandra Codine et Marielle Blanchier, de marquer une pause musicale. On parlera après de la disponibilité de la mère de famille, hein, qui est vraiment cruciale pour l'éducation des enfants, mais qui n'est pas si facile non plus à mettre en œuvre. Nous écoutons La Famille, interprétée par Marc Dupré.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Comment éduquer ses enfants sans se laisser déborder et sans se perdre? Les deux invités de Radio Présence partagent leur expérience aujourd'hui. Alexandra Codine, auteure du podcast « C'est le moment de briller » et Marielle Blanchier, auteure de « Déborder, non merci, éduquer en toute sérénité ». Alors, chose promise, chose due, nous allons parler de cette disponibilité de la mère de famille. Elle est cruciale pour l'éducation des enfants, mais ce n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Les parents sont pris, et notamment les mères, entre la tradition judéo-chrétienne d'aimer, c'est tout donné, et le nécessaire temps pour soi. On va peut-être commencer par vous, Marielle Blanchier. Quels conseils vous pourriez donner afin de trouver un juste équilibre?
Alors, c'est vrai que l'équilibre est très difficile à atteindre, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un équilibre. Et donc, on balance dans le temps pour soi, dans le temps pour les enfants, dans le temps pour l'un qui va moins bien, et l'autre qui sera moins choyé à ce moment-là, mais je crois que c'est nécessaire, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'à un moment donné, certains enfants ont besoin, et c'est un peu la brebis perdue, hein, ont besoin de beaucoup de temps parce que cet enfant va moins bien, et les autres sont capables de le comprendre aussi. C'est ce balancier que les autres peuvent comprendre, parce qu'en fait, on n'a pas 14 enfants qui ont tous le même âge, donc il y en a des plus grands et des plus petits, donc les soins apportés aux plus petits sont très différents des soins apportés aux plus grands, et avec l'âge, avec le recul, maintenant je me rends compte que je prends beaucoup de soins au repas, et donc c'est du temps que je prends tout simplement avec mes casseroles, mais en fin de compte, c'est après pour préparer un repas pour tous, où tous seront autour de la table, et il y a quelque chose de la dimension un peu eucharistique là, quand tout le monde vient autour de la table, qu'on rend grâce pour le repas partagé, pour ce qu'on reçoit, pour la présence des autres. Et ces temps-là sont importants aussi. Ils ne sont pas dédiés à une personne en particulier, mais à l'ensemble du groupe, et c'est important aussi. Et donc, c'est-à-dire qu'en tant que mère de famille, de famille au foyer, j'ai peut-être la chance d'avoir en ce moment tous mes étudiants qui révisent leur partiel. Donc, c'est un temps particulier avec les étudiants qui sont à la maison. Ensuite, il peut y avoir un enfant malade, ça sera un temps particulier avec cet enfant-là. Et je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément pensé à l'avance, parce que je savais pas qu'ils allaient avoir leur partiel. Mais enfin, si je savais, mais je m'étais pas préparée à ça particulièrement, mais je sens maintenant que c'est un temps dédié à ces enfants-là. Il y en a eu un malade, ça a été un temps dédié à cet enfant malade. Et je pense que le cours de la vie fait que si on est très attentif, et si c'est notre but de vie, en fait, d'être disponible à nos enfants sans nous perdre, on y arrive. Le temps nous est donné pour qu'on y arrive.
Sur cette préparation des repas qui pour vous est essentielle, Marielle Blanchier, et on imagine un temps de secret un peu, hein, un temps de silence. Est-ce que vous en profitez pour bénir chacun de vos enfants, pour les remettre entre les mains du Seigneur? Ou est-ce que vous êtes vraiment dans le feu de l'action en vous disant, bon, il faut que je fasse ci après ça, et avec une succession d'actions?
Alors, l'avantage, c'est que quand même, au bout d'un certain temps, on est habitué à ce qu'on fait dans la maison. Et effectivement, on a ce temps de prière qui est possible et qui existe. Et effectivement, pendant que je suis dans la cuisine, j'ai le temps de prier, même dans les tâches ménagères, en passant l'aspirateur et en beaucoup de choses. Tout ce qui est répétitif a cet avantage-là, c'est que c'est à la fois répétitif, mais à la fois on a cette liberté intérieure et cette liberté de louer le Seigneur, de prier pour les uns pour les autres, d'écouter des podcasts aussi. On a beaucoup de liberté, et en fait, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que beaucoup de gens se sentent complètement oppressés par les tâches ménagères, et en fin de compte, c'est plutôt une liberté qu'on a.
Alexandra Codine.
Ah ben alors là, le mot liberté, je suis tout à fait d'accord. Et je rajoute aussi le mot choix, parce que finalement, c'est une succession de choix. On doit choisir ce qu'on doit faire. Alors oui, il y a les routines qui, quand elles sont vraiment ancrées, sont des moments où effectivement on peut poser le cerveau, et puis on peut aussi avoir des pensées pendant ces routines qui nous permettent ensuite de faire des choix sur ce qu'on va prioriser ou pas, ou les personnes qu'on va prioriser, ou les actions qu'on va prioriser. Et tout ça, c'est dans un joyeux équilibre de tout, en fait. La vie autour, vraiment les trois mots liberté, choix et équilibre sont extrêmement présents dans ma vie aujourd'hui.
Sur ce que disait Marielle Blanchet à propos de la disponibilité pour un enfant à un moment précis et puis après pour un autre, comment vous la vivez, vous ?
Alors forcément, c'est divisé par 7 chez moi parce que j'ai 2 enfants. Je ne sais pas comment dire, c'est au ressenti de leurs besoins. Oui. Et puis
donc ça implique de savoir s'adapter et d'avoir cette souplesse.
Ah oui, obligé. Alors oui, il va y avoir les routines, mais les routines, elles sont pas à telle heure pile, en fait. Oui. On fait un choix de ce qu'on doit faire avec qui, à quel moment, en fonction du ressenti de ce qui est le plus important. Pour lui et pour moi. Si à un moment, je sens que moi, j'ai plus besoin d'aller me promener et m'aérer, je jauge s'il est capable de rester seul un petit moment, parce que là, c'est moi qui ai plus besoin. Et là, je me priorise toujours. Par contre, je me priorise.
Et ça veut dire qu'il faut apprendre à se connaître soi-même et connaître les besoins de ses enfants et de son mari. Ça, c'est un chemin aussi.
Tout à fait. Et je pense le plus intéressant et le plus important. Mmh.
Marielle Blanchet, sur cette connaissance de soi-même.
Oui, c'est crucial. C'est vraiment la plus importante. C'est arriver à se connaître, à connaître ses limites. Et puis on s'étonne toujours, en fait. On s'étonne toujours de retomber dans certains pans, de devoir retravailler certaines parties. Mais c'est un vrai travail. On se laboure soi-même. Hein. On essaie d'avancer sur ce qu'on est. Et puis après, de discerner qui est l'enfant, le mystère de l'enfant et de la personne qui est en face de nous. En fait, tous nos enfants sont des mystères. Donc, il y a ça aussi à travailler et à avancer. Et notre mari, mais c'est absolument passionnant. C'est vraiment passionnant, toutes ces personnes qui sont des mystères en face de toi, de soi. Et en même temps, ils sont des mystères, et en même temps, dans le cœur de Dieu, ils ne sont pas des mystères, puisque Dieu les connaît parfaitement. Et donc, plus on s'approche du cœur de Dieu, plus on a des bribes de connaissances de nos enfants, il me semble, et des personnes qui sont autour de nous.
Oui, ça donne des clés de compréhension, en fait.
Et puis, j'ai envie de rajouter la confiance, en fait. Avoir confiance au projet de Dieu pour notre enfant, c'est des fois on s'obstine à vouloir que notre enfant fasse les choses comme ça, comme ça, comme ça. Et puis en fait, compte à un moment, moi je lâche, je me dis non mais qui tu es en fait ? Tu es sa maman, oui, mais il y a un autre projet pour lui qui te dépasse, fais confiance. Et là, ça soulage. Moi, ça me soulage.
Ça soulage, mais c'est pas évident. C'est cette confiance à donner, ça
s'entraîne peut-être.
Implique un certain lâcher prise.
Oui.
Oui. Et vous, Marielle Blanchet, j'imagine que vous aussi, vous avez dû lâcher prise vis-à-vis de certains de vos enfants.
Oui, à la fois, je trouve qu'on doit lâcher prise et en même temps, on doit tenir bon. Cet équilibre est très compliqué, en fait. Hein. Oui. Tenir bon sur des choses qui nous semblent vraiment importantes, des choses qu'on a envie de transmettre, où il faut justement pas lâcher, et d'autres où il faut lâcher. Et donc cet équilibre est très très difficile à trouver. Ça c'est vraiment primordial d'arriver à se dire ce point-là, ben je vais continuer, je vais, et puis cet autre c'est vraiment pas important, c'est une autorité non ajustée et il faut la déblayer. Et ça, c'est très difficile à ajuster.
Oui, ça demande.
C'est aussi en fonction de ce qu'on est, de notre vécu, de ce qu'on a vécu nous-mêmes. Et c'est pour ça aussi, c'est important de se connaître.
Oui, c'est ça. Oui. Et comprendre comment on fonctionne et quels sont ses propres besoins.
Oui. Et puis par rapport à, je rebondis sur autre chose que disait Alexandra, par rapport à la créativité, je trouve que dans notre routine, on est dans une routine quotidienne, hein, parce que c'est important de bien mettre en place cette routine pour une maman, pour une mère de famille, pour que les enfants ne se perdent pas aussi, pour qu'ils sachent où on en est quand ils arrivent. Et en même temps, cette routine permet tellement de créativité. Parce que justement, on sait qu'il va se passer telle chose à tel moment et ça laisse de la place et de la disponibilité pour autre chose, pour de la créativité. Et c'est ça qui fait que la famille a du piquant. C'est ça qui fait que des choses différentes se passent. Ça donne de la joie, toute cette créativité, cette disponibilité. Mmh. Et ça, je pense que c'est très important pour nos enfants, de pas se retrouver dans une routine qui est pénible et lourde à gérer, mais qu'on peut y rajouter des touches de créativité, des espèces de pépites et des rayons de soleil qui font que la vie est agréable et sympathique.
Mm-hmm. Vous, Alexandra Codine, grâce à la méthode Flylady que vous avez mise en place, vous avez donc mis en place des routines. Qu'est-ce que ces routines vous ont permis Marielle Blanchet parle de créativité et vous, pour votre part?
Moi, ça a été surtout de ne plus me sentir submergée. Mmh. J'étais vraiment tout le temps submergée avec une charge mentale très importante. J'avais l'impression qu'il y avait toujours plein de choses à faire, qu'il y avait toujours plus de choses à ranger. Et ça, c'était envahissant. Et donc, ces routines m'ont vraiment permis de ne plus être submergée, de faire les choses les unes après les autres, de prendre conscience aussi du temps que prennent les choses. Parce que, par exemple, je pouvais me faire une montagne de plein de choses et me rendre compte finalement que ça prend 5 minutes. Mmh. Et donc, bon, ben, à force de les faire et de me rendre compte que ça prend tant de temps, ben, je sais qu'à tel moment, je pourrais le mettre dans mon agenda.
Et donc ça libère.
Ouais, complètement.
Oui, bien sûr. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit l'une et l'autre tout à l'heure sur l'image de la femme au foyer. Elle est évidemment malmenée aujourd'hui et vous avez fait le choix, toutes deux, de ne pas avoir d'emploi rémunéré à l'extérieur. Comment vous supportez le regard des autres, Alexandra?
Alors ça c'est un sujet. Ça, c'est un sujet très, très, très complexe. Moi, quand on va en société, on nous demande « Tu fais quoi dans la vie ?» Et bon, moi, avant, quand j'étais infirmière pour le plus grand fabricant d'avions de la région, c'était très valorisant, c'était hyper intéressant, les gens trouvaient ça superbe. Et maintenant, si je dis mère au foyer, c'est sûr que les regards peuvent plus vite, enfin, les conversations peuvent plus vite tourner. Donc, je dis souvent, je travaille, mais pas pour de l'argent. Et c'est ce que j'ai vraiment l'impression de faire aussi bien dans mon foyer que dans les diverses associations pour lesquelles je suis bénévole. Et donc voilà, c'est sûr que bon, moi, d'avoir un mari qui a toutes ces étiquettes locales et du coup, entre autres, il est maire de notre village, par exemple. Donc de suite, je suis la femme du maire.
Ah oui, c'est sûr.
Alors pour la féministe que je suis, c'est des fois compliqué de me dire femme d'eux. Alors mon mari, il aime bien se présenter en tant qu'homme d'eux ou mari d'eux. Ça, je trouve ça très sympathique.
Ouais. Marielle Blanchet, sur cette question de la reconnaissance de la mère de famille.
Je pense que être mère au foyer, c'est très compliqué, surtout quand on a fait des études et qu'on n'a pas été élevé pour ça, en fait. C'était mon cas, en fait. Quand j'ai fini mes études, j'allais travailler, j'allais avoir un ou deux enfants. Moi, c'est le nombre d'enfants qui a fait que c'était plus judicieux pour nous que je reste à la maison plutôt que j'ai un emploi salarié. C'est un choix, évidemment. J'ai été professeure à l'IUT de Sceaux pendant quelques années et je suis pas contre non plus d'avoir une possibilité de travailler pour un emploi rémunéré. En même temps, aujourd'hui, c'est vraiment plus judicieux que je reste à la maison parce que ce que j'y fais est tellement plus important que de l'argent ou de la reconnaissance que je pourrais avoir par ailleurs. En même temps, moi, j'ai pas ce souci de reconnaissance parce que les gens, quand je dis que j'ai 14 enfants, ils comprennent tout à fait que je reste pas à la maison. Par contre, toute la journée, enfin tout le temps, les gens nous disent « Ah mais comment vous faites financièrement ? Ils ne doivent pas manger à leur faim, comment vous allez faire pour les études ?» Enfin ça, c'est quelque chose qui est très très récurrent, surtout dans les réseaux sociaux. Mais bon, on y arrive très bien et c'est plus leur peur que la nôtre.
Oui, ah oui, ça c'est évident. J'aimerais qu'on termine cette émission par cette image de la mère parfaite. Hein. Vous avez parlé des réseaux sociaux, cette maman qui écoute patiemment son enfant, qui anticipe tout. Et puis il y a aussi, heureusement, sur les réseaux sociaux, les témoignages de mamans débordées, dont les enfants régissent le rythme familial. Et vous invitez, Marielle Blanchet, dans votre livre, à faire preuve de bon sens et d'intuition. Qu'est-ce que ça recouvre, ces deux mots, pour vous ?
Ça recouvre justement cette liberté de pouvoir se détacher de tout ce qui est entendu et tout ce qui est déjà su et de pouvoir trouver ses, c'est ce qu'on est soi, en fait. Le bon sens et l'intuition, ça permet d'être qui on est soi-même, sans copier le voisin. Alors, le voisin, il fait certainement plein de choses très bien, et il y a certainement des pépites et des choses à reprendre, et en même temps, on est soi-même. Et ça, c'est très important, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on perd de vue que on a en nous, on a cette capacité en nous à trouver le meilleur et à pouvoir transmettre le meilleur à nos enfants. Et on le perd complètement de vue, et c'est vraiment dommage, parce que on veut faire comme le voisin, on veut prendre les meilleurs, et on a raison, hein. Il y a plein de choses à prendre chez les voisins, chez la voisine qui élève son enfant comme ça. Mais en même temps, on est ce qu'on est nous, et je pense qu'on perd la spécificité de chaque famille. Chaque famille est unique, chaque famille a quelque chose à donner au monde, et on n'a pas à justement niveler tout ça et à vouloir être parfait comme est le voisin. On est nous-mêmes et on a à donner ce qu'on est soi-même, et ça, c'est dans l'intuition et dans le bon sens qu'on trouve à l'intérieur de soi, je crois.
Mmh. Alexandra, vous voulez réagir ?
Je trouve que c'est très beau de se et c'est encore une fois se faire confiance finalement, avoir cette intuition et y croire. Et oui, pas besoin de se comparer aux autres. Un bon moyen de gâcher son bonheur est de faire des comparaisons. Je l'ai dit je ne sais combien de fois dans les épisodes.
Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, on termine sur effectivement cette idée essentielle, hein, voilà, de chaque famille est unique et de chaque personne est unique. Je vous remercie beaucoup, Alexandra Codine. Je rappelle le nom de votre podcast, pardon, c'est Le Moment de Briller sur toutes les plateformes. Et puis, Marielle Blanchet, je vous remercie aussi. Je rappelle le titre de votre livre, Déborder, non merci, éduquer en toute sérénité, c'est chez Salvator. Vous avez partagé l'une et l'autre votre expérience de mère de famille pour éduquer sans se laisser déborder. Merci infiniment à toutes deux.
Merci beaucoup.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.